dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Et avant que nous lisions, on va simplement réaliser quelque chose, c'est que l'évangile de Jean, il y a une particularité. C'est un des seuls évangiles où il y a très peu de miracles qui sont racontés. Je ne sais pas si vous aviez fait attention à ça. L'évangile de Jean, il y a 7 miracles seulement qui sont racontés. Et Jésus les appelle d'ailleurs des miracles ou des signes. 7 signes qui sont là et qui traduisent 7 impossibilités à l'homme, mais 7 possibilités pour Dieu. Et le premier de ces signes, c'est ce qu'on va lire, c'est l'eau qui est changée en vin. Est-ce que c'est possible que de l'eau se change en vin? Est-ce que vous avez déjà vu ça? On est d'accord que non. Deuxième impossibilité, deuxième miracle qui a lieu, guérison du fils de l'officier du roi. Il y a un officier qui est venu voir Jésus et Jésus a guéri son fils alors qu'il était loin de lui. Et ça nous parle de cette impossibilité que les hommes ont de guérir, déjà de guérir quelqu'un qui ne voit pas. Mais Dieu est capable, lui, de guérir les choses qui ne se voient pas. Troisième signe, la guérison d'un paralytique à la piscine de Bethesda. Est-ce que c'est possible qu'un paralytique se lève? C'est quelque chose d'impossible. Et pourtant, Dieu l'a réalisé au travers de Jésus. Multiplication des pains, quatrième chose, la marche sur les eaux, cinquième chose, la guérison d'un aveugle né, un aveugle qui était comme ça de naissance. C'est possible parce que le Seigneur Jésus le fait. Septième et dernier signe qui est raconté dans l'évangile de Jean, la résurrection de Lazare, passer de la mort à la vie. Et si on étudiait chacune de ces histoires, chacun de ces miracles, on s'apercevrait que derrière chacune d'entre elles, il y a une vérité que le Seigneur a voulu qu'on soit au courant. Et ce soir, je voudrais qu'on s'interroge simplement sur le premier signe qui est donné, c'est le miracle des noces de Cana. C'est Jean chapitre 2, verset 1er. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Le premier miracle de Jésus, le signe que Jésus a voulu transmettre, la chose impossible qu'il a voulu montrer aux hommes qui devient possible par sa grâce, c'est le fait qu'il peut y avoir une transformation. Et ce soir, c'est ce que je voudrais qu'on voit ensemble. Avec Jésus, il est possible que les choses soient transformées, comme l'eau a été transformée en vin dans cette histoire. Mais pour que ça soit possible, pour que Jésus puisse transformer quelque chose dans nos vies, il faut qu'il y ait certaines attitudes qui vont correspondre, qui vont permettre au Seigneur de trouver en nous un terrain favorable pour qu'il puisse agir, pour qu'il puisse s'inviter. Mais vous avez déjà remarqué quelque chose, moi c'est quelque chose que quand même je remarque par les temps qui courent, c'est tellement important de le souligner, c'est que Jésus, il est allé à un mariage. Et dans les temps qui courent où on se dit le mariage c'est plus trop l'affaire du, c'est plus trop quelque chose d'aujourd'hui, c'est plus dans le vent, Jésus, il montre quand même que le fait d'aller à un mariage, il montre que son approbation par rapport à cette institution. Le mariage, c'est quelque chose qui est béni de Dieu. Le mariage, c'est quelque chose que Dieu approuve. Et il va plus loin que ça, c'est que Jésus qui participe à un mariage, Jésus qui participe à un événement de la vie courante, ça nous montre quelque chose de bien précis. C'est que Dieu, ça ne doit pas être une histoire du dimanche. Dieu, ça doit être une histoire de tous les jours. Une histoire du concret. Et il participe à la cérémonie du mariage, vous êtes d'accord ? Mais est-ce que c'est pas intéressant quand Dieu participe à notre mariage? Pour nous, vous, par exemple, qui êtes jeunes baptisés, mais pour tous ceux qui sont baptisés, jeunes mariés, pardon, vous avez compris. Pour moi qui suis marié, Je trouve tellement que c'est important que Jésus soit présent à mon mariage, mais tous les jours, concrètement, quand ça va bien ou quand il y a des moments d'incompréhension, Seigneur, que tu sois présent. Dieu désire être présent dans notre vie de manière concrète, de manière véritable, pas seulement le dimanche. Il ne veut pas que ça soit juste une vérité, une théorie, mais il veut véritablement se manifester. Est-ce que simplement déjà nous invitons Jésus à venir tous les jours de notre vie? Ou est-ce qu'on se contente de certains moments, le jeudi soir, ou le dimanche matin, ou le mardi soir, peu importe? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. En tout cas, Jésus veut faire quelque chose, il veut transformer. Il veut transformer. Et il y a toujours quelque chose à transformer dans nos vies. Mais la première étape pour que Jésus puisse transformer, pour qu'il puisse accomplir cette transformation spirituelle en nous, c'est qu'il doit trouver en nous un cœur soumis. Et nous le voyons bien au travers de cette question que Jésus a posé à sa maman. Est-ce que Jésus, c'était quelqu'un qui était insoumis envers ses parents? Il y a un verset même qui dit le contraire. Dans Luc, au chapitre, le prenez pas, hein, mais Luc, chapitre 2, verset 51, ça nous dit qu'il leur était soumis, il était soumis à ses parents. Jésus était soumis à ses parents, et ça concerne l'histoire, quand il était dans le temple, et quand il avait 12 ans. À ce moment-là, Jésus était déjà soumis à ses parents, mais on sait très bien qu'il est resté soumis à ses parents toute sa vie. Seulement, il pose une question à Marie. À Marie, qui est sa maman, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Et je ne sais pas si cette question vous laisse indifférent, mais moi, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Comment il parle à sa maman? Est-ce que, moi, j'imaginais mon fils qui arrive, alors que je veux le... que je veux le punir ou quoi que ce soit, et qui me dit « Papa, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Je me mets à la place de cette situation, et c'est quelque chose de particulier quand même, vous imaginez l'histoire. Mais là, on se comprend bien que c'est pas n'importe qui parle. Et d'ailleurs, ce qui est dit, ce n'est pas n'importe quoi non plus, puisque c'est une expression hébreu qu'on a du mal à cerner véritablement en français. Et je voudrais qu'on puisse lire ce passage qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 17, où elle est employée, cette expression, dans un autre contexte, qui va peut-être nous permettre de la comprendre un peu mieux. 1 Roi, chapitre 17, et le verset 17. Une autre personne qui va dire « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Vous connaissez la veuve de Sarepta, vous connaissez Élie, et bien ça concerne ces personnes. Après que Élie ait accompli un miracle, que Dieu ait accompli un miracle surtout par l'intermédiaire d'Élie, pour cette veuve, la farine n'a pas manqué dans le pot, la cruche n'a pas diminué, il y a eu de l'huile en abondance pendant tout le temps que le Seigneur a permis. Il est dit ceci au verset 17, « Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et si on lit la suite, on voit que ce qui s'est passé, Élie n'a pas pris le fils pour faire n'importe quoi, il a pris le fils simplement pour que Dieu manifeste sa gloire et le guérisse. Et c'était quelque chose d'intéressant. Mais du point de vue de la femme, avant que le miracle n'ait lieu, qu'est-ce qui se passe? Elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas la motivation, elle ne comprend pas les desseins du Seigneur. Elle est là, devant l'homme de Dieu, et elle est en train d'essayer de réfléchir, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'Élie veut aussi? Est-ce que tu es venu pour me rappeler que je suis quelqu'un de pécheur? Mais ça, tu n'as pas besoin de le rappeler, je le sais. Est-ce que tu es venu pour que mon fils, à cause de mon péché, soit tué? Vous voyez, elle essaye de trouver pourquoi ça se passe, pourquoi il y a telle épreuve, pourquoi je vis dans cette situation. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Élie? Et lui, il lui dit simplement, non, donne-moi ton fils. Donne-moi ce que tu as perdu, et par la grâce de Dieu, je vais te le redonner, parce que le Seigneur a permis cette situation simplement pour une seule chose, pour manifester sa gloire. Et il y a des situations comme ça où Dieu, on ne comprend pas ce qui se passe, mais il permet cette situation pour que sa gloire soit manifestée. Et c'est sûr que quand on connaît l'histoire, on n'est pas surpris. Nous, on dit, oui, c'est pas grave, de toute façon, il va ressusciter après. On connaît la fin. Mais elle, quand son fils est mort, moi, je me mets à sa place. Si mon fils meurt, je crois que je me poserai aussi des questions. Et vous comprenez pourquoi elle dit cette parole. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Quelles sont tes intentions? Pourquoi ça s'est arrivé? Moi, mon intention à moi, c'était que mon fils reste avec moi. Je ne voulais pas le perdre. Je voulais que mon fils reste. Mais quelles sont les intentions de Dieu? Pourquoi Dieu a permis cette situation? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Il y a comme quelque chose qui s'est mis entre cette femme et Dieu, et elle ne comprenait plus. Il y a comme quelque chose qui pourrait se mettre, comme un voile. Hein. D'ailleurs, la Bible parle du voile qui est entre Dieu et les hommes. Et c'est exactement dans cette dimension-là que Jésus parle et qu'il pose cette question à sa maman. « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Mais on voit que les rôles sont inversés à ce moment-là parce que c'est Jésus qui est le Fils de Dieu qui pose cette question à sa maman. « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Et on voit que sa maman, elle est venue poser cette question parce qu'il y a un problème qui est présent. Est-ce qu'il y avait un problème ? Il y avait un problème pour un mariage quand même. Il manquait de vin. Même aujourd'hui, c'est quelque chose que... Je sais qu'on est dans une église, mais même comme dans les mariages, on a l'habitude de boire du vin. C'est quelque chose de courant, en France en tout cas. Et ils sont dans ce problème-là, où ils sont dans ce mariage. Alors à l'époque, il faut bien comprendre qu'il y avait... C'était pas du tout comme aujourd'hui. C'était pas simplement une soirée. C'était 7 jours. Et vous imaginez la quantité de vin qu'il fallait pour 7 jours. Et il y avait aussi une particularité, c'était que... Il y avait des gens qui pouvaient se rajouter plus ou moins... Il n'y avait pas une liste préétablie, si vous voulez. Les gens pouvaient venir. Et d'ailleurs, les disciples, si on regarde l'histoire, le chapitre 1er, on se rend compte que Jésus, quelques jours avant, il commence à appeler des disciples. Et 3 jours après, il est invité, mais il y a ses disciples qui sont avec lui. Et si on regarde bien, on se rend compte que les disciples, ils n'étaient pas prévus au programme, par exemple. Puisqu'il les a appelés juste avant. Donc il y avait des personnes qui étaient là en plus. Mais bon, comme c'était dans la mentalité, aujourd'hui, on ne le ferait pas ça. Est-ce que vous auriez aimé que certaines personnes viennent s'inviter à votre mariage? Les budgets, aujourd'hui, ce n'est pas facile. Et c'est toute une préparation. Il y a même la salle dimensionnée en fonction du nombre d'invités. En tout cas, à l'époque, ce n'était pas comme ça. Mais ils ont eu un problème du coup. Ils ont manqué de vin. Et la maman de Jésus est venue le voir. Marie est venue voir Jésus. Ils n'ont plus de vin. Et on sent bien derrière cette phrase qu'il y avait... Comment dire ? Il n'y avait pas un ordre, mais il y avait... Mais si tu fais quelque chose, on sent bien qu'elle ne le dit pas de manière adonide. Ils n'ont plus de vin. On sent que... Mais Jésus, vas-y, fais quelque chose. Mais Jésus lui répond avec cette phrase particulière. « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Et non, Jésus n'était pas un fils insoumis. Non, Jésus n'était pas un fils qui voulait se rebeller contre l'autorité. Mais Jésus, il voulait montrer quelque chose, marquer quelque chose de manière très claire. Il voulait montrer cet état de cœur entièrement soumis, oui, à ses parents, mais d'abord et en tout premier soumis à Dieu. Et dans ce moment-là, il y avait besoin de marquer une différence. C'est pour ça qu'il dit cette phrase, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» C'est un peu comme s'il disait à Marie, « Oui, c'est vrai qu'il y a un besoin. Tu veux répondre à un besoin qui est là, qui existe. Mais moi, je veux répondre à ce besoin aussi, mais de la manière que Dieu veut. » Je ne veux pas le faire n'importe comment. C'est un peu comme s'il disait, oui Marie, toi tu veux éviter que la honte soit sur cette famille, tu veux éviter que le marié soit blâmé, qu'il perde la face devant les gens, parce que c'était le marié qui fournissait tout ce qu'il fallait pour le mariage, et tu veux éviter que tout cela, tu veux éviter que la fête soit gâchée. Moi, ma priorité, c'est que je veux que Dieu soit glorifié. Vous comprenez la nuance ? La position de Jésus, Jésus voulait d'abord... que la gloire de Dieu soit manifestée. Marie, elle voulait répondre aux besoins pratiques. Peut-être aussi qu'il y avait cet aspect-là, parce que Marie, depuis que la naissance de Jésus, elle avait gardé toutes les promesses, elle avait eu des prophéties, il y avait eu toutes sortes de choses incroyables, un ange qui lui a parlé, qui lui a annoncé la naissance de Jésus, elle avait gardé toutes ces choses dans son cœur. Et peut-être qu'elle s'attendait à ce que ce soit le moment où Jésus manifeste qu'il est le Messie. Ça y est, ils vont enfin voir que Jésus, c'est le Messie. Ça y est, c'est le moment. Et elle lui dit, allez, ça y est, manque de vin, vas-y, tu peux montrer maintenant qui tu es. Et Jésus, il est en train de lui dire, non, moi je veux montrer aux hommes quelque chose. Je veux montrer aux hommes une vérité, que les hommes, ils ont besoin d'une transformation. Et c'est comme si Jésus disait, moi, mon seul désir, c'est de ne faire que la volonté du Père. Et ce verset, d'Ésaïe 55, verset 8, nous rappelle cette vérité. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et Marie, avec cette pensée des hommes, cette pensée humaine, Jésus avait cette pensée de la gloire de Dieu, cette pensée spirituelle. Il voulait que les choses se déroulent de la façon dont Dieu avait résolu qu'elles se déroulent. Jésus respecte sa maman, Jésus est soumis à sa maman, mais il veut marquer la différence entre l'autorité divine et l'autorité de sa maman. Et la question se pose déjà, dès à présent, à nous, à quelle autorité voulons-nous nous soumettre ? Déjà ce soir. Est-ce que nous avons compris que si Dieu peut accomplir une transformation dans notre vie, ça ne sera le cas que dans un cœur qui se soumet à son autorité à lui. Et il y a tellement de choses qui peuvent se mettre entre nous et Dieu, entre Dieu et Jésus, il y avait des choses qui se sont mises, il y avait des considérations humaines, il y avait des pensées humaines qui s'étaient mises, il y avait des façons de réfléchir qui n'étaient pas mauvaises en soi. Elles voulaient répondre à un besoin qui existait. Mais ce n'est pas parce qu'on répond à un besoin qu'on fait la volonté de Dieu. L'important, c'est de savoir, est-ce que nous sommes dans la volonté du Seigneur. Par contre, je voudrais quand même rééquilibrer la balance en disant que, parce que souvent, quand on prêche sur Marie, on aime bien montrer ses défauts, montrer qu'elle est humaine, pour répondre à une certaine religion qui la met beaucoup en avant. Mais je voudrais quand même montrer, voir ensemble, qu'elle a fait quand même des choses qui sont remarquables. Parce que quand elle était dans la difficulté, quand il y a eu un problème qui s'est posé, elle s'est tournée vers le Seigneur. Elle lui a présenté son besoin. Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et elle a fait connaître son besoin, même si elle a fait de manière maladroite, même si elle a fait pas de la bonne manière, même si elle s'attendait à autre chose, elle a fait quand même. Et elle a fait de manière simple, maladroite, mais elle a quand même été exaucée parce qu'ils ont manqué de vin et Jésus est intervenu et il a pu régler la situation. Même quand on est maladroit dans nos demandes, même quand on ne sait pas trop comment s'y prendre, Jésus, lui, veut nous secourir. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable de se rendre compte de ça. Et puis quand on voit comment elle parle après aux serviteurs, on voit très bien que ce n'est pas elle qui fait la loi. Elle leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle leur donne ce conseil. Et c'est comme si elle leur disait, c'est pas à moi de dire ce que vous devez faire, c'est pas à moi de dire non plus à Jésus ce qu'il doit faire. Par contre, vous, faites tout ce qu'il vous dira. Et cette chose-là, c'est quelque chose qu'on doit réfléchir, qu'on doit penser dans notre cœur, se poser cette question, est-ce que moi je veux faire tout ce que le Seigneur veut me dire ? Est-ce que moi-même, je veux accomplir tout ce qu'il va me dire, quel que soit ce qu'il va me dire, quelle que soit la difficulté ? Michael, il parlait de porter le joug aussi, c'est Jésus qui a parlé de cette chose. Porter son joug, c'est quelque chose de difficile. Est-ce que je suis prêt à le faire simplement parce que le Seigneur me dit de le faire ? Ça, c'est les questions qu'on doit se poser. En tout cas, il faut se poser aussi cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose entre moi et Jésus ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là, qui s'est mis et qui voudrait m'écarter, me séparer de lui ? Je me souviens encore de ce frère que je visitais il y a peu de temps encore et qui était tellement omnibulé par une pensée, un verset de la Bible qu'il ne comprenait pas. Mais c'était pas omnibulé, le mot est faible, si vous voulez. Il était, je ne sais pas comment expliquer. Alors, omnibulé, puissance 18, par un verset de la Bible. Et le pire, c'est que c'était un verset de la Bible. C'est-à-dire que ça avait l'impression d'être quelque chose de spirituel. Et vous savez, des fois, il y a des versets qu'on ne comprend pas dans la Bible. Moi, je suis encore peut-être que ce n'est pas votre cas, mais moi, je suis encore dans des moments où je ne comprends pas certains versets de la Bible. Mais ce frère, il était dans cette situation-là, mais il en faisait tellement une fixation qu'il ne pensait qu'à ça tous les jours. Et comme il ne comprenait pas, il faisait toutes sortes de théories bizarroïdes qui faisaient qu'après, les comportements normaux de la vie, il ne les avait plus. Il laissait ses pensées tournoyer dans sa tête et faire en sorte qu'il n'exprimait plus après du tout l'amour du Seigneur. Et ça se traduisait dans des choses terribles. Il n'arrivait plus à dormir, il disait des paroles méchantes, enfin, toutes sortes de choses qui se sont passées. Parce qu'à la base, ça avait l'apparence de méditer la parole, mais ça n'en avait que l'apparence. Il y a des fois où on ne comprend pas. Et comme le disait M. Gau il y a quelques dimanches, il disait, c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Il rappelait cette parole que Joseph a pu dire. Il y a des choses que je ne comprends pas, oui, mais c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Je ne veux pas batailler plus qu'il n'en faut. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas me renseigner, poser des questions à ceux qui vont pouvoir m'aider, mais si je vois que c'est quelque chose qui commence à prendre la place, prendre le dessus, prend même la priorité entre ma relation, la priorité sur ma relation avec Dieu, ben je veux le laisser de côté. Et je veux le mettre de côté, je veux dire, Seigneur, par la foi, je veux avancer. Est-ce que vous avez jamais eu des moments comme ça où vous ne compreniez pas ? Et ça fait comme un poids. Et ça, c'est un joug qu'il ne faut pas prendre, par contre. Ce n'est pas le joug du Seigneur, celui-là. Le joug du Seigneur, c'est de lui obéir, d'être attentif à tout ce qu'il nous demande. Est-ce qu'il y a quelque chose entre moi et le Seigneur? Peut-être c'est simplement le péché. Le péché, c'est une chose qui nous sépare de Dieu. Le péché, c'est quelque chose qui veut se mettre entre nous et Dieu. Et si on n'a pas réglé l'histoire du péché, eh bien, on est séparé de la présence de Dieu. Il y a quelque chose entre nous et Dieu. On n'arrive pas à comprendre le Seigneur Jésus, à comprendre ses plans pour nos vies. Mais peut-être ça peut être des pensées, ça peut être des raisonnements humains, ça peut être des considérations particulières. Il y a tellement de choses qui peuvent se mettre entre nous et Dieu. La Bible nous dit les choses qu'il faut, les motifs, les raisons pour lesquelles nous devons vouloir que Dieu agisse. On ne doit pas vouloir que Dieu agisse dans nos vies parce qu'on l'a décidé, mais on veut que Dieu agisse parce qu'il a fait des promesses. On veut que Dieu agisse parce qu'on a discerné que c'était sa volonté, parce qu'on était dans la prière, on a cherché sa face, on a compris que c'était la volonté du Seigneur, alors Seigneur agit. On veut que le Seigneur agisse parce que le Saint-Esprit nous conduit dans cette direction. Il y a tellement de choses qui peuvent nous aider. Le Seigneur nous a mis toutes sortes de moyens pour qu'on puisse comprendre que c'est sa volonté et qu'on puisse désirer qu'il puisse transformer, faire son œuvre, agir. On a tellement besoin de lui. Seigneur, en tout cas, je veux faire tout ce que tu me diras de faire. Est-ce que vous êtes d'accord de dire ça au Seigneur? Ça, c'est quelque chose qui est personnel et j'espère que c'est votre cas. Moi, c'est mon cas. Seigneur, je veux faire tout ce que tu vas me dire. Mais s'il y a la soumission pour être transformé, il y a aussi, le Seigneur Jésus a donné un signe de cette transformation. Et pourquoi le Seigneur Jésus, il a justement fait remarquer que lui voulait se soumettre à Dieu avant de se soumettre à sa maman. Pourquoi il a voulu faire remarquer ça? Pourquoi il n'a pas voulu faire les choses n'importe comment? J'étais en train de réfléchir et je me disais, mais c'est vrai qu'il aurait pu faire toutes sortes de miracles à ce moment-là. Il aurait pu faire apparaître des vases déjà remplis de vin. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Après tout, c'était le Seigneur Jésus. C'était pas n'importe qui. C'était Dieu fait homme. Il aurait pu faire apparaître des vases remplis de vin. Il aurait pu, il aurait pu multiplier le vin. Il restait peut-être une goutte de vin dans un verre. Il aurait pu le multiplier et servir toutes les autres personnes qui étaient présentes. Il a fait de cette manière avec le pain. Est-ce qu'il aurait pas pu le faire de manière physique pour le vin? Oui, il aurait pu. Il aurait pu faire tellement d'autres choses, mais il a choisi de le faire de cette manière-là, que ça soit un signe, quelque chose qui nous marque, quelque chose qui... Parce que encore aujourd'hui, quand quelqu'un, même dans le monde, parle de l'eau transformée en vin, on se souvient tout de suite que c'est un miracle de Jésus. Même si on n'y croit pas, on sait, c'est quelque chose qui nous parle, parce qu'on n'a jamais entendu ça parler ailleurs. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'ai jamais lu ça ailleurs que dans la Bible. De l'eau transformée en vin. Et il y a une transformation, et on se rend bien compte que de l'eau et du vin, ce n'est pas la même chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, transformation. Et quand il est dit, au verset 11, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. » Le mot « miracle », ça signifie, littéralement, c'est un signe. Et le signe, c'est quelque chose qui est plus fort encore que le miracle. Le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Mais le signe, c'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive pour une bonne raison. C'est pas anodin. Jésus a voulu transformer l'eau en vin. Jésus a voulu faire la volonté de Dieu pour marquer quelque chose de particulier, pour marquer une vérité, pour montrer aussi, manifester sa gloire. D'ailleurs, c'est dit, il manifesta sa gloire. Dans quel but? Afin que les disciples croient en lui. Et nous devons rechercher à ce que le Seigneur Jésus manifeste sa gloire dans nos vies. Et nous devons essayer aussi de comprendre de quelle manière il a manifesté sa gloire. Il a transformé quelque chose de particulier. Vous savez, comme il est écrit au verset 6, c'était des vases, les six vases de pierre qui étaient là, ils étaient destinés aux purifications des Juifs. C'est-à-dire que les Juifs, avant de manger, et d'autant plus quand il y avait des mariages, ça durait 7 jours, donc il y avait des repas pendant les 7 jours, ils devaient se laver les mains, se laver les pieds, faire toutes sortes de rituels pour obéir à la loi et pour être considéré comme pur pour pouvoir manger. Jésus, au travers de cette transformation qu'il a opérée, il a voulu montrer quelque chose. Il a voulu montrer que le rite juif qui était jusqu'à présent possible pour la purification et il est transformé, il est remplacé maintenant par le sacrifice qu'il allait accomplir. C'est plus l'eau des hommes, c'est plus ce que les hommes pouvaient apporter qui allait laver leurs péchés, et ça le faisait de manière temporaire, juste le temps du repas, parce que dès qu'ils sortaient dans le monde, ils étaient à nouveau souillés, il fallait qu'ils se relavent. C'était plus cette eau-là qui allait laver le péché, c'était maintenant la grâce de Dieu. C'était maintenant le sang de Jésus qui a coulé à la croix, qui allait pouvoir laver entièrement le péché. C'était plus la loi rigide, la loi intransigeante, les ordonnances bien précises qu'il fallait absolument obéir pour pouvoir plaire au Seigneur, qui allait être de mise. Maintenant, ça allait être la grâce et la vérité. D'ailleurs, le verset 16 du chapitre 1er nous dit « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et quand il y a eu ce miracle de Cana, Jésus a voulu dire à toutes les personnes qui étaient présentes « Maintenant, c'est le moment où c'est la dispensation de la grâce. Maintenant, c'est le moment où Dieu veut faire grâce aux hommes. Jusqu'à présent, il y avait la loi, mais Dieu veut transformer ça maintenant en la grâce. Dieu veut transformer ce temps où les hommes devaient faire toutes sortes, obéir à toutes sortes d'ordonnances et de commandements pour plaire au Seigneur. Il veut transformer ça en un temps où les hommes vont pouvoir vivre la grâce de Dieu et être totalement éloignés du péché. Un miracle qui peut avoir lieu que par une transformation. C'est ça le signe que le Seigneur Jésus voulait mettre en avant. Et c'est pour ça qu'il a voulu faire absolument ce que le Seigneur lui disait de faire. Et le salut, ça passe par la transformation. Jésus va intervenir quand même en faveur du marié. Vous êtes d'accord? Et est-ce que c'était ce que Marie voulait? Au début, c'est ce que Marie voulait quand même. Il manque de vin. C'était pour leur signaler qu'il y avait ce problème. Et même si Jésus a voulu faire remarquer que Marie n'avait peut-être pas les bonnes intentions, en tout cas, il est quand même allé dans son sens. Il est quand même intervenu en faveur du marié parce qu'il y avait une situation qui demandait une intervention. C'était une situation impossible. Et pour une situation impossible, il y a besoin d'une intervention de Dieu. Une intervention de Dieu. Seul le Seigneur Jésus peut débloquer les situations impossibles. Parce que changer de l'eau en vin, vous êtes d'accord, c'est pas courant. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Mais avant que Jésus intervienne, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait du vin. Il y avait du vin de bonne qualité, on va dire, mais sans plus. Hein? Puisque après, c'est du bon vin qui a eu lieu. Donc, on peut se dire, c'était du vin, mais bon, sans plus. Et vous savez que le vin nous parle du bonheur, ça nous parle de la joie. Et en l'occurrence, ce vin qui était déjà présent, ça nous parle du bonheur que le monde peut donner. Ça nous parle du bonheur que l'homme peut vivre quand il est livré à lui-même. L'homme livré à lui-même peut goûter à certains bonheurs sur la terre. Ce n'est pas parce qu'on ne croit pas au Seigneur qu'on ne vit jamais aucun bonheur. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Vous êtes d'accord avec moi? Que même quand on est pécheur, il y a des choses qui nous font plaisir. Il y a des choses qui sont là, qui sont bonnes. Sauf que le fait d'être pécheur, ça ne nous donne aucune assurance que le bonheur va durer. Ça ne nous donne aucune assurance que le bonheur va pouvoir être éternel, contrairement au moment où on reçoit le bonheur du Seigneur, la grâce de Dieu. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Il y a un bonheur qui est là, qui a l'air sympathique, mais à un moment donné, ça s'arrête. À un moment donné, c'est épuisé. Parce que c'est exactement ce qui se passe dans ce monde. Quand on goûte au bonheur de ce monde, à un moment donné, ça s'arrête. Le bonheur sans Dieu, il est de piètre qualité. Et ce monde, il nous offre tellement de bonheur qui sont passagers. Mais il y a une autre chose, c'est que l'époux, il a failli à son devoir. C'est lui qui aurait dû prévoir. Il aurait dû prévoir des réserves. Mais l'époux, il n'avait pas de réserve. Et l'homme livré à lui-même, il ne peut pas faire des réserves de bonheur. On aimerait, dans les temps où tout va bien, se dire, ah ben tiens, là en ce moment ça va, je vais me faire un réserve de bonheur, comme ça quand ça ira pas, je vais puiser dedans. Ça ne marche pas comme ça, vous êtes d'accord? Quand ça ne va pas, eh bien ça ne va pas. Et quand ça va, ça va. Et on est, à la limite, on n'est pas maître de ces choses. Et Dieu nous a donné un moyen de pouvoir accéder à une source de bonheur inépuisable, c'est dans sa présence. Mais le bonheur humain, c'est le bonheur qui essaie de se débrouiller par lui-même, ce futur marié qui était là et qui essayait de pourvoir à la situation, il s'est retrouvé face à un problème insurmontable, il n'y avait plus de vin. Et il ne pouvait pas aller chercher du vin par là pour toute la foule qui était présente à son mariage. C'était quelque chose d'impossible. Il fallait qu'il y ait une intervention divine. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et des fois, il y a des temps de sécheresse où on est là, dans un moment de sécheresse spirituelle. Il faut une intervention du Seigneur. Il n'y a rien dans ce monde qui va pouvoir compenser. Il n'y a rien dans ce monde qui va pouvoir remplacer la présence de Dieu. Il faut une intervention du Seigneur. Mais des fois, on se dit... Ah, mais c'est à cause d'un élément extérieur, il y avait plus de gens que prévu. Et est-ce que ça arrive dans nos vies des imprévus? Ou est-ce que toute votre vie, vous la vivez, mais vous savez exactement tout ce qui va se passer? On est obligé d'être confronté jour après jour à des imprévus. Il y a des situations qui peuvent arriver auxquelles on n'avait jamais pensé. Et malheureusement, c'est souvent des mauvaises situations qui arrivent. Je prends un exemple tout bête, mais on peut vouloir démarrer sa voiture le matin et puis on est en panne de batterie, il faut batailler, on n'avait pas prévu, on arrive en retard. Vous voyez, il y a des imprévus qui peuvent arriver dans la vie. Est-ce que c'est parce que est-ce qu'on peut prévoir tout ce qui se passe? Non. Mais il y a une assurance, il y a quelque chose de vrai, c'est que quand on est avec le Seigneur, lui, il n'est jamais surpris par les imprévus. Lui, il est toujours au courant, et il sait exactement comment nous en sortir. D'ailleurs, Jésus, c'est lui qui intervient, il sauve la situation. Comment? Le salut, je l'ai dit, c'est par la transformation. Il sauve la situation simplement en transformant de l'eau en vin. Et quand on voit les quantités qui sont données, on voit que ça suffit largement pour que le mariage soit fini. Mais moi, je voudrais surtout insister sur cet aspect, et je ne voudrais pas tarder beaucoup plus, cet aspect qui nous montre véritablement comment la bénédiction peut arriver dans une situation impossible. Comment Dieu peut intervenir dans une situation impossible? C'est vrai qu'il y a la soumission dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai que c'est important de savoir si on est dans les plans de Dieu ou pas. C'est vrai que c'est important de savoir si, de discerner la volonté du Seigneur. Mais il y a encore quelque chose qu'il faut ajouter à ça. Un cœur soumis, il faut lui ajouter l'obéissance et la foi pour que le Seigneur puisse transformer la situation et que la bénédiction puisse en découler. Obéissance, ça se voit au verset 7. On peut le relire ensemble. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et qu'est-ce qu'ils font les personnes qui sont là, les serviteurs? Et ils les remplirent jusqu'au bord. Remplissez d'eau ces vases, ils les remplissent pas à moitié, ils les remplissent jusqu'au bord. Et vous savez que l'eau nous parle aussi de la parole, le fait que nous avons besoin d'être remplis de la parole. Et ce soir, alors que nous partageons ensemble ces textes, nous nous remplissons de la parole. Mais il y a quelque chose que je note quand même, c'est qu'il faut être rempli jusqu'au bord. Et il ne faut pas qu'il y ait un élément en nous-mêmes qui soit hors de portée de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose, un petit tiroir secret qu'on a laissé dans le coin de notre cœur et auquel on dit « Seigneur, tu ne touches pas à ça ». Oui, Seigneur, je veux t'obéir, mais je ne veux pas t'obéir jusqu'au bord. Je ne veux pas être rempli de ta parole jusqu'en haut. Seigneur, il y a ce côté, il faudrait que tu ne le touches pas. Ça me satisfait comme c'est. Ou est-ce qu'on se dit, non Seigneur, je me rends compte que tout ce que j'ai, les qualités comme les défauts, mais je les ai, mais je veux que tu poses ta main, que tu fasses une œuvre de transformation. Et je veux, Seigneur, obéir à ta parole dans tous les points où tu vas me le montrer. Là, tous les points où j'aurai besoin que ça change, Seigneur. Et la deuxième attitude, c'est la foi, puisqu'il est dit au verset 8, « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Qu'est-ce que s'attendait à recevoir l'ordonnateur du repas à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il recherchait partout dans tous les coins de la maison? C'est du vin, on est d'accord. Et est-ce qu'il n'a pas fallu quand même que ses serviteurs, ils aient la foi dans la parole de Jésus pour puiser et aller porter ce qui semblait être de l'eau au gars qui attendait du vin? Absolument. Quand même, imagine la situation. Les gars, ils plongent peut-être une jarre dans le vase de pierre rempli d'eau et ils vont porter ça en fermant les yeux, en espérant que ça marche. Mais est-ce qu'il n'a pas fallu de la foi? Et souvent, la foi que le Seigneur attend, elle se traduit par un acte, par quelque chose qui va se voir dans les faits. La foi sans les œuvres, elle est morte, nous rappelle l'apôtre Jacques. Et là, c'est véritablement un exemple de cette vérité. La foi qu'ils ont manifestée, elle était vivante parce qu'elle était active. Ils ont dû porter, ils ont dû faire quelque chose, ils ont dû obéir au Seigneur, mais le montrer aussi dans les faits. Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans notre comportement, dans les choses qui vont se voir, dans les attitudes qu'on va avoir, dans les paroles qu'on va dire, qui vont montrer qu'on a la foi? Il ne faut pas le faire pour montrer qu'on a la foi, mais c'est des choses qui vont être là et qui vont montrer aux gens qui sont autour de nous, parce que le but c'est ça, c'est pas nous montrer à nous-mêmes qu'on a la foi, c'est montrer aux gens que oui, je crois au Seigneur. Oui, je traverse une épreuve. Je traverse une situation impossible. Et même ce que le Seigneur me demande de faire, c'est quelque chose d'impossible. Mais je veux le faire quand même, parce que c'est sa parole. Est-ce qu'ils n'avaient pas une parole de la part de Jésus? Ils avaient pas plus qu'une parole, ils avaient un ordre. Puisez maintenant et portez-en à l'ordonnateur du repas. Moi, j'aime la simplicité de ces mots, parce qu'il est dit, il n'y a que trois mots qu'il est dit, mais ils en portèrent. En trois mots, on voit que ces personnes, ils ont eu la foi. Et voilà le secret. Le secret, ce n'est pas un secret, en fait. Il faut obéir au Seigneur et il faut manifester notre foi. Et si on fait ça, si on montre au Seigneur qu'on a la foi, eh bien, le Seigneur, il agit. Le Seigneur, il fait le miracle. Même si on ne s'en rend pas compte, le miracle, il a eu lieu parce que l'ordonnateur du repas, quand il a commencé à goûter l'eau, il s'est rendu compte que, enfin, lui, il croyait que c'était du vin. Et c'était du vin. Entre le temps où ça a été puisé et le temps où ça a été apporté à l'ordonnateur du repas, ça s'est transformé. Dieu a agi, Dieu a changé la situation qui était totalement désespérée parce qu'il a changé l'eau en vin. Une simple transformation. Quand Dieu fait les choses, il le fait bien. Et le bonheur que Dieu veut nous donner, c'est ce bonheur-là, c'est un bonheur inépuisable. Le vin nous parle de la joie du salut, la joie que le Seigneur veut apporter. Il est dit même que dans le ciel, nous boirons du vin nouveau pour exprimer cette joie-là. Alors je ne sais pas si ce sera du vrai vin ou je ne sais pas si c'est spirituel, ça c'est pas l'important. Ce que je sais, c'est qu'il y aura un bonheur éternel. D'ailleurs, il y a un psaume qui nous rappelle qu'il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a des délices éternels à ta droite. Ça, c'est ce que le Seigneur veut qu'on vive. Et il ne veut pas seulement qu'on le vive au ciel. Il veut que dès à présent, sur cette terre, on puisse goûter au bonheur véritable. Le vrai bonheur, c'est de le connaître. Le vrai bonheur, c'est que notre vie soit en règle avec lui, qu'on ait ce cœur soumis, qu'on ait cette obéissance, qu'on ait cette foi véritable. Et quand on fait ça, le Seigneur y pose sa main. Et quand on parle de choses comme ça, on se dit, ah, changer de l'eau en vin, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Mais c'est exactement ce que le Seigneur veut faire pour un cœur. Changer un cœur de pierre, un cœur qui est là, qui est dur, le changer en un cœur tendre, en un cœur de chair, un cœur qui est pécheur, il veut le changer en un cœur saint. Le Seigneur veut changer une vie qui semble détruite, une vie qui semble désespérée, vide de tout sens. Le Seigneur il veut la changer en une vie nouvelle, remplie de sa grâce. Et je prends cet exemple d'une personne avec qui je discutais cet après-midi, qui me disait, grâce au Seigneur, cette personne elle était dans l'alcool, et parce que le Seigneur l'a aidée, eh bien, aujourd'hui, elle est plus capable d'avaler même quelques millilitres d'alcool. C'est devenu quelque chose qu'elle ne supporte plus. Simplement parce que le Seigneur a changé son cœur, a transformé. Et quand le Seigneur nous parle de transformation, bien sûr, il nous parle d'abord de la transformation du cœur, qui se repent, qui demande pardon pour ses péchés. Mais il nous parle aussi de toutes ces transformations dont on a besoin pour s'éloigner du péché. Comme cette personne, elle me disait non seulement qu'elle était alcoolique, mais qu'en plus aussi elle fumait. Et parce qu'elle s'est attendue au Seigneur, parce que le Seigneur a posé sa main, parce qu'elle a mis sa foi et qu'elle a été obéissante, le Seigneur a pu agir, le Seigneur a pu transformer cet amour obsessionnel pour l'alcool, le transformer en une aversion. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'il n'y a pas des points dans notre vie où on a justement besoin d'une transformation comme ça? Que le Seigneur change? Oui, il y a telle ou telle chose avec laquelle on bataille, on conteste continuellement. Est-ce que ce n'est pas bien que le Seigneur puisse venir changer cet amour qu'on a pour tel péché, le transformer en une répulsion? Monsieur Go rappelait mardi que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Des fois, on a besoin de cette crainte-là, d'haïr le mal. Parce que quand on hait le mal, quand on n'a plus d'amour pour le mal, ben on est moins tenté qu'avant. Dans ce domaine, il y aura d'autres domaines, bien sûr. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin de ce genre de transformation dans nos vies? Est-ce que ce n'est pas important de dire, Seigneur, moi peut-être je te connais déjà, peut-être que tu as transformé ma vie, tu m'as déjà donné cette vie nouvelle, mais il y a encore des domaines où j'ai besoin que tu me transformes. Il y a encore des points qui sont là, où je conteste, où je bataille continuellement. Seigneur, j'ai besoin que tu poses ta main. Oui, je veux t'obéir. Oui, je veux avoir la foi en toi. Oui, je veux me soumettre. Je veux réfléchir à est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui se place entre toi et moi. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, il y a des moments où je me rends compte qu'il y a peut-être pas grand-chose, mais une simple pensée qui s'est placée entre moi et Dieu. Quelque chose de très insignifiant. Mais je sens que ça me prive de la communion complète, la plénitude avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous le vivez ces choses-là. Et quand je suis dans ces moments, je ne suis pas à l'aise, je dis Seigneur, je prie, je dis Seigneur, qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est là? Et le Seigneur, souvent dans ces moments-là, il met le doigt là où il y a besoin que ça soit mis. Il dit, oui, il y a ça. Tu as fait ça et tu n'as pas demandé pardon, par exemple. Vous voyez? Mais combien c'est important qu'on puisse réfléchir. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et moi? Je ne veux pas me séparer de toi. Je ne veux pas. Il y avait un livre qui disait, qui parlait du voile qui a été recousu par une certaine religion. Des fois, c'est nous-mêmes qu'on recoue le voile qui a été déchiré. On l'a chanté même. Le voile a été déchiré par la mort de Jésus à la croix. Et nous, des fois, on recoue le voile. Et on se sépare de la volonté de Dieu. Et est-ce que c'est facile de suivre les directions de quelqu'un qui est derrière un voile? Et c'est tellement évident, mais pourtant, des fois, on vit sans régler notre problème, sans régler les choses qui nous séparent de Dieu. Combien on a besoin, simplement, de faire comme les disciples. Alors que Jésus manifeste sa gloire, les disciples crurent en lui. Les disciples, ça a été un moment, une occasion d'expérimenter la gloire de Dieu, un moment de faire un progrès, un moment où leur foi aussi a été fortifiée. Est-ce que nous n'avons pas besoin que notre foi soit fortifiée? Est-ce que vous êtes satisfait de votre foi et que vous voulez plus faire de progrès et vous vous dites « Non, ça ne sert à rien que je vive d'autres expériences avec le Seigneur, ma foi elle est assez grande. » Qui parle comme ça ce soir? On est d'accord qu'il n'y a personne. Hein, on a tous besoin de dire, on est tous là comme les disciples, « Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, ma foi elle me paraît tellement petite. » J'ai besoin que tu la fortifies. Comment elle peut être fortifiée? Mais simplement, en vivant une situation impossible où le Seigneur va manifester sa gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, Jésus. Jésus, nous te remercions pour ces paroles. Nous te remercions pour ces textes qui nous montrent encore ton désir de transformer. Transformer encore des vies, transformer encore des cœurs, transformer encore des situations qui semblent tellement impossibles aux hommes. Seigneur, toi seul es capable de faire une transformation radicale. Toi seul es capable de changer de l'eau en vin. Toi seul es capable de changer un cœur pécheur en un cœur saint. Toi seul es capable de changer une vie brisée, Seigneur, en une vie nouvelle. Toi seul es capable de transformer un homme pécheur, un homme totalement mauvais, en un homme qui peut faire ta volonté. Alors Seigneur, ce soir nous voulons nous attendre à toi. Seigneur, nous croyons que là où nous allons, si nous allons avoir cette attitude de foi et d'obéissance, si nous allons avoir cette attitude de soumission, alors tu vas pouvoir intervenir, quelle que soit la situation. Il n'y a pas de situation trop grande dans laquelle tu ne puisses intervenir. Et cette histoire nous le rappelle encore, Seigneur. Oui, nous voulons réfléchir à ces choses qui peuvent nous séparer de toi. Seigneur, que ton Saint-Esprit, dans cette soirée, au travers de ces paroles que nous partageons, puisse nous montrer ces choses qui nous séparent de toi et que tu puisses nous aider à y renoncer et Seigneur que tu puisses les enlever dans notre cœur dès l'instant où nous allons confesser notre péché. Tu nous as dit ces paroles Seigneur que dès l'instant où nous confessons nos transgressions, tu ne nous traites pas selon nos péchés Seigneur. Alors c'est ce que nous voulons faire ce soir. Tu vois peut-être les personnes qui se battent avec telle ou telle convoitise, tel ou tel péché, les personnes qui te connaissent déjà mais qui ont tel ou tel combat dans leur vie. Seigneur, je te demande, dans ces moments, de leur permettre d'expérimenter ta gloire, de manifester ta puissance, de manifester un signe de transformation dans leur vie, Seigneur, afin que leur foi soit fortifiée. Combien ce soir encore nous réalisons que nous avons besoin que tu transformes nos vies, que tu transformes nos foi, Seigneur, afin que nous puissions discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, aide-nous dans ce travail. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous reconnaissons que nous ne sommes rien sans toi. Merci parce que à la croix, Seigneur, tu as versé ton sang et ton sang nous permet d'avoir le péché totalement effacé de nos vies, Seigneur. Et combien nous avons cette certitude que nous sommes devant cette source inépuisable de paix et de bonheur, Seigneur, dans ta présence. Alors, Seigneur, nous voulons te remercier pour tout cela. Que dans ces moments, alors que nous allons chanter ce chant, Seigneur, tu puisses encore nous aider à prendre des décisions pour toi. Tu puisses encore nous aider à avoir cette assurance devant toi, d'être toujours fidèle, toujours obéissant, toujours plein de foi par rapport aux choses que tu nous dis, Seigneur. Toutes les choses que tu nous dis, nous voulons les faire, comme l'a dit Marie à ses serviteurs. C'est ce que nous voulons manifester dans nos vies éternelles. Amen.